Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous en sommes dans l'Évangile selon Saint Luc. Au chapitre 10, versets 4 à 11, sur le polycopier qui contient les commentaires des pères de l'Église, pour les chapitres 6 à 10, nous en sommes à la page 35, au milieu de la page. Donc je reprends ces versets, parce que je n'ai pas terminé les explications la dernière fois. Ne portez ni bourse, ni sac, ni chaussures, ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord paix à cette maison. S'il s'y trouve un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans la même maison, mangeant et buvant de ce qu'il y aura chez eux, car l'ouvrier est digne de son salaire. Ne passez pas de maison en maison dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, sortez sur les places publiques et dites, la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nous, nous la secouons contre vous. Sachez cependant ceci, que le royaume de Dieu est proche. Donc j'avais expliqué la dernière fois ce que représentaient ces termes, la bourse, le sac, les chaussures. Donc notre Seigneur Jésus-Christ demande à ses disciples, à ses apôtres, par l'esprit de pauvreté, même le vœu de pauvreté, de se couper des choses matérielles. Le sac représente le fardeau des affaires du siècle, et plus ce fardeau est lourd, plus il empêche de marcher correctement. Donc les personnes qui ont un sac trop lourd, qui sont trop attachées aux choses de ce monde, ne peuvent pas s'élever comme un oiseau, celui qui ne peut pas voler s'il a un poids qui appuie sur ses pattes. Le poids l'empêche de voler. Bon, les chaussures représentent les œuvres mortes. Quant à la bourse, c'est la sagesse qui demeure cachée au lieu d'être diffusée au milieu des paroissiens. Donc celui qui prend la charge du ministère, disent les pères de l'Église, le ministère de la prédication, doit regarder comme indigne de lui de porter le poids des sollicitudes de la terre, qui courbe sa tête sous un joug honteux. Il ne lui permet pas de se relever pour prêcher les choses du ciel. La première chose qu'il faut faire lorsqu'on veut suivre notre Seigneur Jésus-Christ, c'est se détacher des choses de la terre. On ne peut pas à la fois aimer les choses de la terre et en même temps aimer notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui nous attache à la terre? Les trois concupiscences. Donc la concupiscence des yeux, de l'orgueil, et la concupiscence de la chair. Chair, yeux, orgueil, les trois concupiscences. Et donc les religieux qui sont représentés ici par les disciples et les apôtres, c'est à eux que parle notre Seigneur Jésus-Christ, les disciples et les apôtres, comme ils sont dans l'armée d'élite de notre Seigneur Jésus-Christ, doivent être protégés par les trois vœux de pauvreté, de chasteté, l'obéissance, ou au moins l'esprit des trois vœux, pauvreté contre la concupiscence des yeux, chasteté contre la concupiscence de la chair, et obéissance contre la concupiscence de l'orgueil. Donc, si on est trop appesanti sous le poids des sollicitudes de la terre, disent les pères, si je courbe la tête sous ce joug des sollicitudes de la terre, eh bien, je ne peux pas me préoccuper des choses divines. Celui qui est marié, par exemple, doit se préoccuper de plaire à son épouse. Eh bien, si on se préoccupe de plaire à son épouse, on ne peut pas s'occuper à la fois des choses de Dieu, de la même façon en tout cas. Certes, il est possible de se sanctifier dans le mariage, c'est absolument évident. Cependant, le religieux qui appartient à Dieu de façon totale ne doit pas être pris par des choses qui vont l'empêcher de se donner complètement à Dieu. C'est évident que si un prêtre a charge d'âme, a charge d'enfant, d'une famille, ben, il ne peut pas. Même si strictement parlant, un prêtre pourrait avoir une famille, strictement parlant, mais ça l'empêche de se donner complètement à Dieu. Vous allez me dire, mais dans les religions orientales, dans les rites orientaux de l'Église catholique, il y a des rites qui reconnaissent, qui acceptent le célibat, qui n'imposent pas le célibat sacerdotal. C'est vrai, mais est-ce que c'est forcément une bonne chose? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le rite romain, le célibat est imposé à tous les sous-diacres, diacres et au-dessus. Hein. Le Seigneur ne veut rien voir en nous de mortel. Voilà pourquoi il ordonne à Moïse de délier sa chaussure terrestre et mortelle lorsqu'il l'envoie pour délivrer son peuple. La poussière de la ville représente justement cet attachement, ces choses matérielles qui nous empêchent de progresser vers notre Seigneur. Saint Luc chapitre 10, versets 12, 13, 14 et 15, en bas de la page 35. Je vous le dis, en ce jour-là, il y aura moins de rigueur pour Sodome que pour cette ville. Malheur à toi, Chorosaïne, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, depuis longtemps, elles auraient fait pénitence, revêtues d'un sac et assises dans la cendre. C'est pourquoi au jugement, il y aura moins de rigueur pour Tyr et pour Sidon que pour vous. Et toi, Capharnaüm, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras plongé dans l'enfer. Alors, voyons le commentaire de ce texte à la page 36. Alors, en haut de la page 36, voyons le commentaire que donnent les pères de l'Église. Alors, est-ce que j'en suis là ? C'est là. Cette paix que les saints demandent pour nous n'est pas simple, seulement la paix des hommes. La paix dont parle notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas simplement l'absence de conflits armés. La paix que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne est une paix tout à fait supérieure. Donc cette paix que les saints demandent pour nous n'est pas la paix des hommes entre eux, mais la paix avec nous-mêmes, la paix avec Dieu. Car bien souvent, nous portons la guerre au-dedans de nous-mêmes. La guerre, c'est quoi? Ben, la guerre, c'est surtout les trois concupiscences. Les trois concupiscences qui peuvent se déchaîner contre nous peuvent provoquer une guerre spirituelle terrible. C'est bien pour ça qu'on appelle la vie spirituelle le combat spirituel. C'est un combat contre la chair, contre le monde et contre nous-mêmes. Et le pire ennemi, c'est nous-mêmes. C'est un combat contre la chair, contre le monde, contre les démons, ses pompes et ses œuvres. Donc, il ne faut pas être surpris si la vie catholique est un combat. Parfois, il y en a des gens qui n'ont rien compris, qui me posent cette question un peu stupide. Mais ça, je l'ai entendu souvent, monsieur l'abbé, moi je voudrais bien avoir une petite vie bien tranquille. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir une petite vie bien tranquille dans l'Église catholique? Je réponds, mais il n'y a plus qu'une seule solution pour vous. Si vous voulez une petite vie bien tranquille, c'est vous faire protestant. Mais les catholiques, c'est la croix. Catholique, c'est l'épreuve. Catholique, c'est la bagarre tout le temps, depuis le matin jusqu'au soir. Parce que les catholiques sont des gibiers de choix pour le démon, donc le démon va tout faire, va s'occuper surtout des catholiques. Il n'a pas beaucoup à s'occuper des protestants, des ennemis de l'Église. Ils vont en faire tout seuls. Rappelez-vous cette histoire qui est arrivée à Saint-François, j'ai déjà expliqué, encore une fois je m'excuse si je me répète, bon, Saint-François qui sort pour aller prêcher dans la ville d'Assise et qui voit sur le pourtour de la ville d'Assise, il y avait un rempart qui protégeait la ville avec une tour à une des portes, et il voit au sommet de la tour un vieux démon tout rabougri, à moitié en train de faire la sieste là-haut. Il comprend pas, et puis il prêche, et puis il ressort, le démon est toujours là, il retourne dans son monastère qui était un petit peu éloigné de la ville. la ville d'Assise, et en arrivant sur le monastère, qui est en contrebas, dans une vallée, eh bien, qu'est-ce qu'il voit? Il voit sur les toits, la toiture du monastère, des milliers de démons, des jeunes démons, en pleine force de l'âge, en train de houspiller ces pauvres moines tout de suite, toute la journée. Alors, y compris dans la ville d'Assise, la plupart des gens, et là, c'est une ville très, 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 très mal famée, la plupart des gens vivent en état de péché mortel, donc les démons ont un peu de travail, donc ils envoient simplement un vieux démon pour être sûr qu'il ne se trompe pas de porte pour aller en enfer, puis c'est tout. Que les gens de la ville ne se trompent pas de porte pour aller en enfer. Par contre, les moines qui, eux, pratiquent la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, eh bien, alors là, le démon est obligé de mettre les bouchées doubles, et faire des heures supplémentaires avec cela, parce qu'ils ne vont pas aller en enfer tout seuls. Hein. Au contraire, ils veulent aller au ciel. Donc, ne soyez pas surpris, mes bien chers frères, si à partir du moment où vous êtes catholique et vous pratiquez votre foi catholique, vous avez d'énormes tentations. Souvent, je le dis aussi, j'ai sans doute déjà dit aussi dans ces cours, mais je me répète, tant pis, j'ai déjà dit, quand je baptise un adulte, je le préviens, attention, à partir du moment où vous êtes catholique baptisé, eh bien, vous allez avoir beaucoup plus de tentations qu'actuellement, parce qu'actuellement, vous êtes du menu fretin pour le démon, mais à partir du moment où vous devenez catholique, vous allez venir un gibier de choix, et donc vous allez avoir beaucoup plus de tentations, mais vous serez beaucoup plus fort aussi pour lutter contre ces tentations. Hein? C'est pour cela que le bon Dieu nous donne le sacrement de pénitence, le sacrement de la Sainte Eucharistie, la nécessité de la prière, c'est toute l'oraison pour pouvoir lutter contre ces tentations. Les grands moyens qu'utilisaient les pères, c'était surtout la prière, le jeûne et l'aumône. Prière, jeûne, aumône. La prière contre l'orgueil, le jeûne contre les tentations de la chair et l'aumône contre les tentations des choses matérielles. Donc pour garder le contrôle de la concupiscence de la chair, eh bien j'utilisais le jeûne. Pour garder le contrôle de la concupiscence des yeux, c'était l'aumône. Et pour garder le contrôle de la concupiscence de l'orgueil, c'était la prière. Les trois grands moyens de pénitence. Bon, alors, certes, les moines du désert, surtout, n'avaient rien à donner aux pauvres, parce qu'ils étaient pauvres eux-mêmes comme les blés, mais il fallait quand même garder, même dans les monastères très pauvres, ils gardaient toujours quelque chose pour le pauvre de passage. Même les plus pauvres, ils gardaient toujours une partie de la nourriture, et parfois même ils donnaient leur propre pain pour le pauvre de passage. Et dans bien des monastères, les responsables des monastères ou les fondateurs d'ordres avaient même interdit de faire des réserves. Et plusieurs histoires dans la vie des saints, justement, où les fondateurs d'ordres avaient interdit de faire des réserves. Et puis, une fois, les donateurs avaient été particulièrement généreux, donc il y avait beaucoup plus de dons en nature, de nourriture qui avait été donnée, parce que dans un ordre religieux, souvent dans ces ordres-là, ils demandaient l'aumône, ils allaient demander l'aumône dans la rue. Et un jour, la personne qui était en charge de la cuisine a reçu de la part des moines, qui étaient partis demander l'aumône dans la rue, beaucoup plus de nourriture que d'habitude. Il y en avait trop. Et au lieu de donner aux pauvres, de passage, il a voulu les garder en réserve dans les celliers du monastère en disant « Eh bien, ça servira pour demain. » Et le supérieur s'en est aperçu, s'est mis en prière, et immédiatement, toute la nourriture qui avait été mise en réserve pour le lendemain dans les celliers a été dévorée par les vers, complètement pourrie, d'un seul coup. Pour bien montrer, vous avez manqué à l'esprit de pauvreté. Manquer à la confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, certes, ce n'est pas un péché de faire des réserves. Moi, j'en fais des réserves. C'est évident, pour payer les factures, pour un peu tout. Mais dans certains ordres religieux, ils devaient vivre au jour le jour. Au jour le jour. Donc, en secouant la poussière de leurs pieds, les disciples semblent dire « La poussière de vos péchés retombera justement sur vous. Une ville, une maison, un bourg ne peuvent exister qu'à la condition de renfermer quelques serviteurs fidèles connus de Dieu. Hein » On peut dire que dans une ville un peu pourrie, et c'est pas ça qui manque aujourd'hui, parfois une seule personne en état de grâce représente le paratonnerre de la ville. Le paratonnerre de la ville. Hein, comme Lot, qui était juste, et le neveu d'Abraham, eh bien, a protégé, tant qu'il était sur place, la ville de Sodome et de Gomorre de la destruction. Et avant de détruire les deux villes de Sodome et Gomorre, détruire complètement les deux villes de Sodome et Gomorre par la destruction, par le feu, le soufre, parce que c'était des villes qui étaient habitées surtout par malheureusement des gens qui étaient des sodomites, et bien avant de détruire ces deux villes et les transformer en la mer morte, Dieu a fait sortir de la ville Lot et sa famille parce que eux étaient justes. Hein. Donc, un homme en état de grâce, une famille en état de grâce, c'est un paratonnerre pour la ville, même si on ne s'en rend pas compte. Avançons, Saint Luc chapitre 10, verset 16. « Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous méprise, me méprise. Et celui qui me méprise, méprise celui qui m'a envoyé. » Ici, on voit très bien l'union des trois personnes de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand notre Seigneur Jésus-Christ dit « Celui qui me méprise, méprise celui qui m'a envoyé », qui est-ce qui a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ ? Celui qui a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu le Père. Donc, le Père et le Fils sont un, parce qu'ils sont consubstantiels, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Consubstantiels dans leur nature commune, qui est divine, bien qu'il y ait une diversité de personnes. Donc celui qui méprise, disent les pères, qui méprise l'envoyé, méprise le monarque qui l'a envoyé. Hein, celui qui méprise l'envoyé du roi, ben, méprise le roi lui-même en méprisant son envoyé. Nous devrions donc considérer les ordres de nos supérieurs religieux comme provenant de la bouche du Christ lui-même. Saint François Xavier, un des tout premiers compagnons de Saint Ignace, quand il écrivait à son supérieur général, Saint Ignace de Loyola, il lui écrivait à genoux, tellement il avait de respect pour lui. Parce que le supérieur général représentait littéralement le bon Dieu, et donc la volonté du supérieur général représentait la volonté de Dieu pour lui. Non, il n'y a pas de vertueux sans obéissance, absolument impossible. Et l'obéissance est bien plus méritoire quand elle s'exerce dans des domaines difficiles, surtout quand on ne comprend pas les ordres et qu'on n'aime pas l'ordre qu'on a reçu. Je sais, quand j'étais dans la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, si j'ai reçu des ordres qui ne me plaisaient pas, eh bien, on part, et puis c'est tout, on est envoyé quelque part, on y va. C'est pour ça que j'ai demandé à Mgr Williamson d'être mon évêque de tutelle, et quand j'ai une chose importante que je souhaite faire, je lui demande conseil avant, et s'il me conseille de ne pas le faire, ben j'obéis pour avoir un supérieur au-dessus de moi. C'est trop dangereux d'être tout seul sans supérieur, même si Mgr Williamson n'est pas canoniquement mon supérieur. Je ne suis pas dans l'organisation de Mgr Williamson, qui n'a d'ailleurs pas d'organisation en tant que telle. Ce qu'on appelle les prêtres de la résistance, mais j'ai tenu à avoir un supérieur au-dessus de moi pour me protéger justement. Alors, on retrouve ici le verset 13, note qui arrive un peu en retard là, sur mon texte, verset 13. Notre Seigneur venait de parler à ses disciples des villes de Chorazin et de Bethsaïda. Si les miracles qui avaient été faits au milieu de vous étaient faits dans Tyr et dans Sidon, depuis longtemps, elles auraient fait pénitence revêtues d'un sac et assises dans la cendre. Et ici, il y a ce texte sur le silice et la cendre, d'ailleurs, qui n'a rien à faire là, c'est une erreur ça. Ce texte devrait être juste au-dessus avec les versets précédents. Donc je ferai la correction sur le polycopier. Le silice qui est tissé des poils de chèvre, figure le souvenir déchirant des péchés qui perce l'âme comme d'une pointe aiguë. Donc de même que les épines, si vous voulez, les buissons d'épines représentent les trois concupiscences qui percent l'âme et qui empêchent l'âme de se développer. La cendre, au contraire, je rappelle le texte, est revêtue d'un sac et assise dans la cendre. Donc la cendre représente la pensée de la mort qui nous réduit en cendre. Et l'action d'être assis signifie l'humilité de la conscience. Alors, Un petit mot là-dessus, sur ce genre de pénitence, la pénitence par le cilice, la pénitence par la discipline, etc. Attention dans les milieux de laïcs de ne pas pratiquer ce genre de pénitence sans la permission de votre supérieur, de votre confesseur en fait. Dans la vie religieuse, les moines n'utilisent un cilice ou pratiquent la discipline que de façon très encadrée et avec l'accord express de leur supérieur. En général, tous les moines le font ensemble. Donc, je conseille beaucoup aux fidèles qui m'écoutent, qui sont dans le monde, les gens mariés par exemple, et qui veulent se lancer dans des pénitences de ce genre, porter le cilice ou se flageller avec un instrument de flagellation, de ne pas le faire sans l'accord de leur confesseur. En tout cas, ne jamais faire ces choses-là en public. Il faut que ça soit absolument privé. Il ne s'agit pas qu'un père de famille commence à se flageller devant ses enfants. C'est des choses qui doivent être privées et faites sous l'obéissance et de façon très, très précisément marquée par les limites de l'obéissance. Donc, l'action d'être assis, donc le cilice représente les mortifications à cause du péché, la cendre représente la pensée de la mort et l'action d'être assis signifie l'humilité de la conscience. En plus de ça, faire très attention parce que l'usage de ce genre d'instrument de pénitence peut entraîner facilement à l'orgueil. À l'orgueil. On le voit très bien dans les pères du désert. Il y a parfois des pénitences qui étaient, à mon avis, très, très imprudentes. On avait l'impression, un peu quand on lit Cassien, ou certaines des lectures qui expliquent la vie des pères du désert, tout à fait au début de l'histoire de l'Église. Il y avait des pères, des moines qui faisaient des pénitences un peu invraisemblables et qui même faisaient presque des concours à celui qui ferait le plus de pénitences. Alors, le premier, je jeûnais 15 jours, le deuxième, il voulait jeûner un mois, le troisième, il voulait jeûner le carême complet. Mais il y en a qui faisaient des pénitences qui étaient pas raisonnables. Par exemple, il y en a qui se faisaient enfermer le mercredi des cendres dans une grotte. Ils faisaient murer la grotte. Il y avait un peu d'eau dans la grotte, c'est tout. Il y avait une petite source dans la grotte, puisqu'on ne peut pas vivre 40 jours sans boire. Et puis, pendant 40 jours, ils ne mangeaient rien du tout. Et on venait, ils demandaient à ce qu'on vienne les démurer le jour de Pâques. Le problème, c'est que quand on venait les démurer le jour de Pâques, les démurer, pardon, le jour de Pâques, on les trouvait pratiquement morts dans certains cas. Est-ce que c'est ce que voulait le bon Dieu pour eux? La question peut se poser, en tout cas. Et dans certains cas, ça peut être de l'orgueil, pas toujours. Si c'est fait dans l'obéissance, ça va. Mais rappelez-vous qu'il y a eu des saints extraordinaires, comme saint Siméon le Stylite, qui se sont mis au sommet d'une colonne pendant 30 ou 40 ans, sur un petit balcon d'un mètre carré, par tous les temps, sous la pluie, la neige, le froid, le soleil. Et ils ont vécu comme ça, en faisant des pénitences extraordinaires, publiques, et en plus en prêchant du haut de leur colonne. Mais c'était des cas exceptionnels, bon, à admirer, pas forcément à imiter, en tout cas, à ne pas imiter sans l'accord d'un supérieur. Hein. Et d'ailleurs, dans ces cas-là, tous ceux qui ont été canonisés, les stylites qui ont été canonisés, par exemple Saint Siméon, il y en a eu d'autres qui ont été canonisés par l'Église, ont toujours fait ça avec obéissance. C'est-à-dire qu'un évêque, ils avaient un évêque au-dessus d'eux, qui envoyait quelqu'un de temps en temps pour vérifier que l'obéissance était toujours là. Et si au nom de l'obéissance, l'évêque demandait à ce que le stylite descende de son perchoir, il descendait immédiatement. Il le faisait de temps en temps pour vérifier l'esprit d'obéissance. Donc, que personne ne pense que ces menaces ne sont faites qu'aux vils et aux personnes qui ont méprisé le Seigneur dans sa chair visible. Hein, celui qui me méprise, vous méprise. Celui qui vous méprise. Celui qui me méprise, méprise celui qui m'a envoyé. Ces menaces s'adressent à tous ceux qui, aujourd'hui encore, méprisent les enseignements de l'Église aussi. Notre Seigneur ajoute-t-il, celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui méprise notre Seigneur Jésus-Christ méprise celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire la première personne de la Sainte Trinité. On ne peut pas séparer les personnes, on ne peut pas offenser notre Seigneur Jésus-Christ sans offenser en même temps les trois personnes de la Sainte Trinité. On ne peut pas honorer une personne de la Sainte Trinité sans honorer les deux autres en même temps. Verset 10. 7 et 18 du chapitre 10. Or, les 72 disciples revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en votre nom. » Et il leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme la foudre. » Alors, les pères expliquent que le fait de voir Satan qui tombe du ciel, c'est un châtiment de l'orgueil. Beaucoup pensent que le Christ ici parle littéralement de la chute de Satan du ciel. C'est la chute de Lucifer. Attention donc à ne pas tomber dans l'orgueil si les démons nous sont soumis, de peur de les rejoindre dans leur châtiment. C'est pour ça qu'il faut, il faut pas demander au bon Dieu des grâces extraordinaires sans des certitudes pratiquement absolues que c'est ce que le bon Dieu veut pour nous. Il faut pas chercher à demander par exemple la grâce des miracles. C'est quand même très dangereux. Imaginez quelqu'un qui fait des miracles à tour de bras, c'est quand même extrêmement dangereux de faire des miracles à tour de bras et ne pas tomber dans l'orgueil en même temps. Imaginez quelqu'un qui fasse des miracles à longueur de journée et qu'il y ait des gens qui viennent du monde entier pour les voir à cause des miracles qu'ils font. C'est très difficile de faire des miracles comme ça sans tomber au moins en partie dans l'orgueil. Et on le voit chez certains saints qui ont été canonisés, mais qui ont eu des chutes, parfois même des faux saints, des personnes qu'on prenait pour saintes et qui en fin de compte n'étaient pas saintes, bien qu'elles faisaient des miracles parce qu'elles étaient tombées dans l'orgueil. Il y a une histoire comme ça chez Saint Philippe Neri, je le raconte au cas où je ne l'ai pas déjà fait. Au temps de Saint Philippe Neri, il y avait dans la ville de Rome une religieuse qui faisait des tas de miracles, des tas de prophéties extraordinaires, et qui impressionnait beaucoup les gens. Alors le pape a envoyé Saint Philippe Neri faire une enquête sur cette religieuse, en lui disant, allez voir un petit peu ce qui se passe, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Et Saint Philippe Neri a pris son bâton de pèlerin et est allé voir le monastère, donc il frappe à la porte du monastère où était cette religieuse que toute la ville de Rome considérait comme une grande sainte, à cause des miracles qu'elle faisait et des prophéties qu'elle annonçait. Donc il frappe à la porte, et puis... Une religieuse vient ouvrir et Saint Philippe Neri lui dit « Je viens voir la sainte ». Et la personne, puisque c'était elle, lui dit « Ah ben c'est moi !» Saint Philippe Neri a fait demi-tour immédiatement et retournait voir le pape et lui a dit « Ce n'est pas de Dieu ». Ce n'est pas de Dieu parce qu'il n'y avait pas l'humilité. Vous voyez, nous sommes des serviteurs inutiles, c'est pour ça qu'il ne faut pas demander ces grâces de miracles. Si le bon Dieu les donne, très bien, on voit très bien chez les vrais saints faisaient des miracles littéralement à contre-cœur. On voit très bien comment le Saint Cléodars, par exemple, a fait des pieds et des mains pour essayer de cacher ses miracles. Il prétendait que c'était Sainte Philomène qui les faisait, donc il mettait tout sous le dos de la petite martyre. Sainte Philomène, alors c'est Sainte Philomène qui fait les miracles et allait lui demander des miracles. Mais en fait, c'était lui qui les faisait. Mais Saint Curé d'Ars avait peur de ces miracles. Il était un peu effrayé de voir le fait qu'il était devenu une espèce d'idole vivante pour la plupart des gens. Il a eu très peur de ça, très très peur de ça. C'est pour ça qu'il a plusieurs fois cherché à quitter en catimini la cure d'Ars pour aller se réfugier dans un monastère où il serait plus livré aux foules comme ça qui venaient d'autres pays, hein, qui venaient jusque de l'Angleterre ou d'Allemagne pour voir le Saint Curé d'Ars. Il était extrêmement embêté de voir ces marques de respect qui lui étaient manifestées, et il aurait bien voulu ne pas faire de miracle, mais bon, le bon Dieu a voulu qu'il se sanctifie comme ça. Donc attention à ne pas tomber dans l'orgueil, hein, même si les démons nous sont soumis, de peur de les rejoindre dans leur châtiment d'orgueil. N'oubliez pas que Satan qui tombe du ciel comme la foudre représente justement Lucifer, l'ange de la lumière, Lux Ferri. Lux Ferri est celui qui porte la lumière et qui a été précipité au fond de l'enfer parce qu'il est justement tombé dans l'orgueil. Pourtant, il avait des grâces extraordinaires, parce que c'était le plus bel ange du ciel, le plus bel archange du ciel. Un séraphin, sans doute. Bon, un chérubin, on ne sait pas, mais en tout cas, un ange extraordinaire de beauté, eh bien, il a été précipité au fond de l'enfer, parce qu'il est tombé dans l'orgueil, en disant, je ne servirai pas, non serviable. Il s'est pris pour Dieu.
Lucifer a été mis dehors par Saint-Michel qui lui a dit « Quid ut Deus est, qui est comme Dieu, pour qui vous prenez-vous ?» Donc la clarté de l'éclair, donc je voyais Satan tomber du ciel comme la foudre, il n'y a pas de foudre sans éclair. La clarté de l'éclair, disent les pères, montre la prééminence et la furieuse nature de Lucifer qui a un grand pouvoir pour faire du mal. Donc il est le singe de Dieu. Donc Lucifer est capable de faire des prodiges. On le voit très bien à chaque fois qu'il y a une véritable apparition, par exemple à Lourdes, 1858, au moment des apparitions de Lourdes, immédiatement après les premières apparitions à Lourdes, avec Sainte Bernadette, quand la Très Sainte Vierge Marie est apparue à Sainte Bernadette, il y a eu autour de Lourdes, notamment à Ségus, des tas de fausses apparitions autour de Lourdes, de gens qui se prétendaient favoriser aussi de grâces particulières de la Très Sainte Vierge Marie, qui ont commencé à faire des espèces de prodiges et presque des miracles. Pourquoi ? Parce que le démon était essayé par tous les moyens d'empêcher les gens d'aller à Sainte Bernadette, qui était la véritable sainte. Donc, le Lucifer a le pouvoir d'imiter notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le singe de Dieu. L'éclair est aussi le symbole de la brièveté de son règne, l'emblème de la gloire du monde. Donc, l'éclair représente, qui ne dure qu'un instant, représente la gloire de Satan, mais qui ne dure pas. Qui ne dure pas, c'est comme... Saint Pierre qui voyait un faux prophète léviter au-dessus du sol, des maîtres au-dessus du sol, et qui a brillé. Ben le bon Dieu n'a pas permis aux démons de tromper les gens plus longtemps avec ce prophète, avec ce faux prophète, à couper les ailes du démon, et le faux prophète il est tombé par terre et il s'est moitié tué. Donc l'éclair est le symbole de la brièveté du règne du démon. Donc comme l'éclair se perd dans la terre, ainsi Lucifer devient par l'orgueil comme une ordure. Donc l'éclair part des nuages en altitude pour descendre attiré par la terre. Eh bien cette terre est le symbole de l'enfer. Et cette lumière fulgurante qui ne dure qu'un instant représente justement la fausse gloire du monde. L'orgueil peut transformer en démon le meilleur des hommes, alors que l'humilité transforme les pires hommes en anges. Regardez par exemple Judas qui avait reçu aussi le don des miracles. Il ne faut pas oublier ça, notre Seigneur Jésus-Christ a donné le don des miracles à plusieurs de ses apôtres. Et ici, le texte nous montre aussi, il avait donné le don des miracles aussi à ses... au moins à certains, ou même à tous les disciples, puisque tous reviennent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en votre nom. » Donc les 72 disciples ont commencé à faire des miracles. Et les apôtres ont fait des miracles, y compris Judas. C'est pas parce que quelqu'un fait des miracles, ça veut dire qu'il est saint. Qu'est-ce qui fait la sainteté d'une personne ? C'est l'héroïcité, la pratique héroïque de toutes les vertus. À tel point que le rôle de l'avocat du diable dans un procès de canonisation, c'est simplement d'essayer de prouver que dans une vertu, la personne à canoniser n'a pas pratiqué l'héroïcité. Et s'il n'a pas été héroïque dans la pratique d'une seule vertu, le procès est immédiatement arrêté. C'est là où on voit l'inanité de ces fausses canonisations, surtout depuis Ostia, depuis Jean-Paul II. C'est comme ça qu'il a pu canoniser un bandit, je n'ai pas d'autre mot, qui était scribe de Balaguer. Si scribe de Balaguer est un saint, moi je suis roi de Russie. Il est bien connu en Espagne. Scribe de Balaguer avait un caractère de cochon. Celui qui a fondé l'Opus Dei, au moment où on a voulu canoniser, c'est Ostia qui Jean-Paul II qui l'a canonisé. La propre secrétaire de Scribe de Balaguer, Père Scribe, qui a été sa secrétaire, je crois, pendant 30 ans, a écrit une lettre à l'autorité à Rome. En disant à Vostila, mais attention, j'ai été la secrétaire de ce prêtre, Scriba de Balaguer, je voudrais certifier et témoigner à quel point il avait un caractère de cochon. Également, il était très connu que la pousse d'Ei, Scriba de Balaguer, avait un amour désordonné pour les richesses. Vous donnez un peu une idée, ça donne aussi une idée du bonhomme. Scriba de Balaguer se prétendait marquesse de Peralta, un titre de noblesse, de nobilité. Et en fait, il avait acheté son titre de noblesse. Un saint n'achète pas un titre de noblesse. Escriba de Barguer n'est absolument pas un saint. Donc, méfiez-vous énormément de l'Opus Dei. L'Opus Dei, c'est un agneau recouvert d'une peau de brebis. C'est, un loup recouvert d'une peau d'agneau. C'est tout ce que c'est. Donc, ils ont gardé tout l'extérieur. Les prêtres de l'Opus Dei sont souvent en soutane. Une certaine vie spirituelle, dirigent bien spirituellement parlant les gens qui se confient à eux. Ils disent même souvent la messe traditionnelle, la messe en latin, au moins, pas toujours traditionnelle, mais au moins en latin. Ils ont un certain extérieur, si vous voulez, qui attire les âmes. Mais ce sont des modernistes complets, des modernistes qui savent garder les extérieurs pour mieux tromper les simples, les gens simples. Comme l'éclair donc se perd dans la terre, Lucifer devient par l'orgueil comme une ordure. Et c'est ce qui nous pend au nez à tous, moi le premier. Hein. Donc attention, faisons attention à cet orgueil qui est surtout dangereux pour les religieux qui sont en contact avec les gens. Hein. Il y en a qui sont complètement tombés à cause de ça. Thomas Merton, par exemple, qui était un religieux. Si mes souvenirs sont exacts, c'était un cistercien américain des années, pas sûr des dates, je pense des années 40-50 aux États-Unis. Il était dans un des États du Sud aux États-Unis et était très connu comme à cause de ses livres. Certains sont pas trop mauvais peut-être, mais Thomas Merton avait commencé à prêcher à l'extérieur. Et a fini par être très très connu. Il était toujours fourré dehors, il quittait son monastère tout le temps pour aller prêcher à droite et à gauche, ce qui n'était pas bon du tout pour sa vie spirituelle. Et quand son père supérieur, son père abbé, a voulu mettre le holà pour l'empêcher d'aller partir partout comme ça, d'ailleurs il a beaucoup trop attendu, et bien le Thomas Merton a refusé d'obéir, et il a fini comme un damné, si mes souvenirs sont exacts. Je n'ai pas le temps de vérifier, mais je crois que Thomas Merton est mort plus ou moins après avoir fricoté avec l'hindouisme, il avait plus ou moins apostasié. C'est pareil, on voit très bien la même chose aussi avec d'autres prêtres, comme par exemple Teilhard de Chardin, qui a très très mal fini aussi. Lui aussi, il est enterré dans la vallée de l'Hudson, je crois, aux États-Unis, à New York. C'est un prêtre français, mais qui a fait un dégât énorme. C'est lui qui a préparé le terrain pour le modernisme. Donc l'orgueil peut transformer en démon le meilleur des hommes, alors que l'humilité transforme les pires hommes en anges. Donc l'orgueil, le grand ennemi de l'orgueil, c'est l'humilité. Et plus exactement, le grand ennemi de l'orgueil, c'est l'obéissance. Tant qu'on obéit, on est protégé. À partir du moment où l'obéissance saute, dès que l'obéissance saute, c'est l'humilité qui saute. Et si l'humilité saute, si l'humilité qui est protégée par l'obéissance saute toutes les deux, eh bien à ce moment-là, c'est la porte ouverte à l'orgueil, et le démon rentre et fait ce qu'il veut de notre âme. Et le démon peut transformer en démon le meilleur des hommes, il peut transformer un saint en démon. On voit ça, c'est certains saints. Je vais vous donner un exemple historique. C'est la vie d'un saint. Je vais vous la lire à partir du texte de Ribadaneira, qui est un compagnon de Saint Ignace de Loyola. Saint Jacques, ermite et confesseur, qui est dans la fête, est au mois de janvier, 24 ou 25 janvier, quelque chose comme ça. Je vous lis cette vie qui est assez courte, mais qui vous donne une idée de ce que peut faire le démon sur une âme pourtant sanctifiée et comment le bon Dieu peut avoir pitié de certaines chutes. Saint Jacques, surnommé l'ermite, fut d'abord un homme de vie admirable. Puis entraîné par les séductions du monde, il devint malheureux et misérable. Relevé enfin par la grâce de Dieu, il donna un rare exemple de la plus austère pénitence. Dans la force de la jeunesse, pour vaincre le monde, il s'enferma. Dans une caverne, il vécut 15 ans, si vigoureux contre ses passions, si saint, si mortifié, que Dieu le rendit célèbre par beaucoup de miracles. Il chassait les démons du corps des énergumènes, guérissait les malades, si bien que les chrétiens couraient à lui de toutes les provinces voisines de la Palestine, et que les païens, les samaritains se convertissaient à notre Seigneur en l'entendant parler. Mais le tyran des enfers, enragé de voir les merveilles du saint, résolut de le perdre. Il suscita un samaritain qui fit dessein avec ses parents et ses amis de le chasser de leur province. Ils trouvèrent une courtisane à laquelle ils donnèrent 20 pièces d'or, en promettant autant si elle parvenait à gagner l'ermite. Cette fille se rendit de nuit à sa cellule. Elle frappe à la porte, disant qu'elle était religieuse d'un monastère voisin, que son abbesse l'avait envoyée dans un bourg assez proche, mais que la nuit l'ayant surprise, elle venait se retirer auprès de lui de peur d'être la proie des bêtes féroces. L'ermite hésita longtemps. Il craignit des quelques ruses de l'enfer et ferma d'abord sa porte avec violence. Mais la nuit était affreuse. Cette femme criait, pleurait, suppliant l'ermite de ne point la laisser dévorer par les bêtes sauvages. Enfin, vaincu par ses prières et par la crainte qu'il ne lui arrive un malheur, il ouvrit la porte, lui donna du pain et de l'eau et la laissa dans la partie la plus reculée de sa cellule. Lui-même se retira dans une autre partie et ferma la porte. La femme prit du pain, but un peu d'eau et parut se disposer à dormir. Mais peu après, elle se lamente, se traîne vers la porte et demande secours en poussant des gémissements. L'ermite entr'ouvre le guichet, la voit étendue par terre et l'entend qui lui disait « Fortifiez-moi, je vous prie, du signe de la croix, car je meurs de douleur. » Saint Jacques, touché de pitié, allume un grand feu, prend de l'huile bénite et sur sa demande lui fait quelque onction sur les membres souffrants dans l'espérance de la soulager. Mais pendant que de la main droite il accomplissait cette œuvre de charité, il tenait sa main gauche exposée à un feu si ardent que l'extrémité des doigts fut réduite en cendres. Quand cette malheureuse femme vit tomber à terre ses lambeaux de chair carbonisée, épouvantée de ce courage, touchée par la grâce, elle avoua tout au saint ermite qui remercia Dieu de l'avoir secouru en un si grand danger. Il envoya cette femme à l'évêque saint Alexandre, qui la reçut avec bonté, la confessa et la plaça dans une retraite où elle mourut saintement. Il chassa ensuite de son diocèse les Samaritains, auteurs de cette perfidie, à voir le saint ermite et le félicita de son grand courage, l'exhortant à y persévérer. Écoutez ensuite. Le démon entra alors dans le corps de la fille d'un homme très puissant de ce pays. Le père l'amena vers Saint Jacques, qui la guérit par ses prières, et lui offrit par reconnaissance 300 pièces d'or. Le saint le refusa, disant qu'il n'avait pas besoin d'argent dans un désert. Il guérit encore un paralytique, un boiteux et beaucoup d'autres malades. Comme on lui rendait de grands honneurs pour éviter l'orgueil, il résolut de se retirer plus avant dans le désert. Il trouva auprès d'un fleuve une grotte assez grande et y demeura 30 ans dans une prière continuelle, ne vivant que des herbes qui poussaient sur les bords du fleuve jusqu'à ce qu'il se fût planté un petit jardin. Sa vie était si admirable que les gens du monde et les religieux de 20 ou 30 monastères accouraient pour l'entendre et recevoir sa bénédiction. Mais, ô inconstance et fragilité du cœur humain, cet homme si grand, ce glorieux vainqueur de l'enfer, ce triomphateur du démon, cet homme de pénitence qui avait tout jeune triomphé de la chair et plus glorieusement que ses volas brûlaient sa main gauche plutôt que de succomber au feu de la concupiscence, ce vieillard aux cheveux blanchis dans la solitude et le service de Dieu se laissa vaincre misérablement, probablement à cause de quelques complaisances secrètes pour cet orgueil qui abat les cèdres du Liban et change en animaux immondes pour qu'ils se reconnaissent et s'humilient, ces anges dont le vol dépassait les plus hautes étoiles des cieux. Le démon s'était emparé de la fille d'un prince fort riche et disait qu'il ne pouvait être chassé que par l'ermite Jacques. Les parents, inquiets de la santé de leur fille, s'informèrent du lieu où pouvait demeurer cet ermite et l'ayant appris, ils la lui conduisirent. Saint Jacques la guérit, en effet, par ses prières. Mais les parents, pour mieux affermir cette guérison, lui demandèrent de vouloir bien garder leur fille 2 jours encore avec lui dans sa cellule. Le saint consentit témérairement, car c'était une ruse du démon, qui allait lui rendre en une seule fois toutes les peines qu'il lui avait fait endurer depuis tant d'années. En effet, quand il la vit, il le vit seul avec cette fille dans le désert, Asmodée alluma dans son cœur une flamme si ardente qu'oubliant les victoires de sa jeunesse, il céda lâchement et, pour cacher son crime, jeta dans le fleuve le corps de la malheureuse jeune fille. Donc il commet le mal avec elle et la tue pour cacher son mal. Hélas, qui se fiera à ses triomphes passés? Qui ne sera pas effrayé de ce terrible exemple? Qui n'avouera pas sa fragilité et se laissera aller aux occasions? Qui osera avoir confiance en ses cheveux blancs? Qui ne comprendra qu'un crime en attire beaucoup d'autres si l'on ne se relève aussitôt par le sacrement de pénitence? Voilà ce que nous apprend la chute déplorable de ce saint ermite et combien nous sommes faibles quand Dieu retire le bras qui nous retient. Ayant donc résolu d'abandonner le service de Dieu et de se livrer au monde, il quitta sa cellule et dans son voyage passa par hasard auprès d'un monastère. On le reçut avec grand bonheur et un grand respect. Les moines lui lavèrent les pieds et l'entourèrent des gars, ravis de posséder un homme si saint. Mais lui n'osait lever les yeux de dessus terre. Il se déchirait la poitrine et avouait ses péchés. Il rencontra, en sortant du monastère, un grand serviteur de Dieu qui le contraignit d'entrer dans sa cellule pour prendre un peu de nourriture et réparer ses forces. Saint Jacques lui avoua son crime. L'autre l'encouragea, lui dit de se confier en la bonté de Dieu qu'il pardonnait au cœur pénitent et lui cita l'exemple de David, de Saint Pierre et de tant d'autres. Saint Jacques le quitta ensuite, mais sans avoir renoncé à ses mauvais desseins. Un peu plus loin, il rencontra un tombeau creusé comme une caverne et tout rempli d'ossements que les siècles avaient presque réduits en cendres. C'est là que l'attendaient la grâce et la miséricorde de Dieu. Une inspiration le saisit, il entra dans ce tombeau, range les ossements dans un coin, enferme la porte et se jetant à terre, il s'écrie « Seigneur, comment oserais-je jamais lever les yeux vers vous? Comment oserais-je vous parler avec cette langue impie et ces lèvres toutes souillées? Aurais-je bien le courage de vous demander pardon? Oui, pardon, mille fois pardon, très doux Seigneur. Ne me perdez pas, mon Dieu, malgré mes crimes, ne m'ensevelissez pas dans mon indignité. Hélas, elle est bien grande, bien abominable. J'ai cédé à l'impureté, j'ai commis un meurtre, j'ai versé le sang innocent, j'ai abandonné le malheureux cadavre aux eaux, aux bêtes féroces et aux oiseaux de proie. Vous savez tout, mon Dieu. Cependant, je l'avoue, pour que vous me pardonniez, ne me méprisez pas, Seigneur, ne méprisez pas ma prière, n'écoutez que votre miséricorde et votre tendre charité pour les pécheurs, ayez pitié de moi qui suis un misérable et un impie. Enveloppez-moi de votre miséricorde, pardonnez-moi, Seigneur, pardonnez-moi, mon Dieu, ne me laissez pas tomber dans cet abîme de péché qui s'ouvre devant moi, sauvez-moi des serres cruelles de mon ennemi, arrachez-moi de la gueule du serpent infernal. » Il passa alors 10 ans dans ce sépulcre, pleurant et jeûnant, ne parlant à personne. 2 fois la semaine seulement, il arrachait quelques herbes qu'il mangeait pour ne point mourir de faim. Jour et nuit, il tormentait son corps avec un si vif repentir qu'il expia enfin ses péchés. Dieu voulut lui en donner la preuve et lui montra que ses larmes avaient éteint sa colère. Il envoya une si grande sécheresse dans cette province que les hommes périssant çà et là résolurent de se convertir à Dieu qui les châtiait avec tant de rigueur. Ils firent des processions, instituèrent des jeûnes. Dieu alors révéla à saint évêque de ce pays qui avait dans un sépulcre un homme d'une apparence misérable mais qui était son fidèle serviteur et qu'il accorderait à son mérite et à ses prières ce qu'il avait refusé aux autres. L'évêque rassembla son clergé et le peuple, leur raconta la vision qu'il avait eue et s'en alla avec eux à la recherche du tombeau où était saint Jacques. On eut quelque peine à le trouver, mais enfin ils y entrèrent et se jetant aux pieds de l'ermite, ils le supplièrent d'avoir pitié de leur province et de prier pour elle. Le saint refusa en se frappant la poitrine et on ne put arracher de lui que ces mots « Pardonnez, Seigneur Jésus-Christ, pardonnez-moi toutes mes iniquités ». L'évêque et le peuple, n'en pouvant tirer d'autres réponses, en allèrent désolés. Ils continuèrent leur jeûne et l'évêque reçut encore cet avis du ciel. « Va trouver Jacques ». Mon serviteur, et persuade-le de prier pour vous. À sa demande, tous vos maux cesseront. On revint au sépulcre. Là, l'évêque, le clergé et le peuple, le suppliant à chaudes larmes et lui racontant la révélation de Dieu, le vainquirent enfin. Le saint ermite leva ses mains vers le Seigneur et lui offrit ses prières. Aussitôt, le ciel, qui était d'airain, s'amollit. Une pluie abondante tomba et tout le monde se mit à remercier Dieu d'un si grand bienfait. Alors les malades accoururent au sépulcre de tous les pays voisins et saint Jacques les guérissait. Et en cette même année, il pria l'évêque de vouloir bien le faire enterrer au lieu qu'il avait si longtemps habité. L'évêque le lui promit et peu de jours après, saint Jacques mourut. Aussitôt, l'évêque s'y transporta. Accompagné du clergé de la noblesse du pays, on embauma le corps et on l'ensevelit dans le tombeau. Plus tard, on lui éleva une chapelle où furent placées ses reliques et où Dieu a fait beaucoup de miracles. Chaque année, on célèbre encore dans cette province un jour de fête en mémoire du signalé service que saint Jacques lui avait rendu. Et donc Simon Métaphraste a écrit la vie de saint Jacques, Surius rapporte aussi cette vie, et le martyrologe romain fait mention de ce saint ermite le 28 janvier. Donc je me suis trompé, c'est pas le 23 ou le 24, mais le 28 janvier. Voilà, c'est un magnifique exemple qu'on trouve dans la vie des saints de Ribadeneira. Pour tous ceux qui ont la possibilité, je vous conseille beaucoup ces livres magnifiques qui s'appellent La Fleur des Saints. Hein. Il y a plusieurs volumes, il y a 9 ou 10 volumes, Et c'est extraordinaire de simplicité, de piété, de véritable piété. Il y a 10 volumes, je crois. Donc, ceci nous aide à comprendre que le démon peut facilement se transformer en ange de lumière. Donc l'orgueil peut transformer en démon le meilleur des hommes, alors que l'humilité transforme les pires démons, les pires hommes, en anges. On voit très bien l'exemple avec saint Thomas, c'est un des exemples les plus extraordinaires. Donc un saint qui fait des miracles, qui se fait rouler par l'orgueil, par le démon de l'orgueil, qui commet le crime de fornication, le crime de meurtre, et qui après ça regrette ses péchés, est pardonné par le bon Dieu, refait de nouveau des miracles, et est sanctifié par l'Église, et est canonisé par l'Église. Comme quoi Dieu pardonne à tous les pécheurs repentants. Regardez Sainte Marie-Madeleine, regardez Saint Augustin, regardez Sainte Thaïs d'Égypte. Moralement, donc, aucun homme ne se sent en sécurité parce qu'il est dans un lieu saint, car ce n'est pas le lieu qui sanctifie l'homme, mais l'homme qui sanctifie le lieu. Mystiquement, donc, explication de ces versets 17 et 18, au sens mystique, beaucoup de choses terrestres peuvent devenir célestes et beaucoup de choses célestes peuvent devenir terrestres. D'où l'image de la foudre qui tombe du ciel sur la terre. L'apôtre Paul, quand il persécutait l'Église, était l'ennemi du Christ. Une fois converti, il fut prêt pour le royaume du ciel. Il y a des gens comme ça qui ont tout perdu. On a des gens qui se sont convertis, qui sont tombés pendant les tortures. Il y a des grands catholiques qui ont fait certainement beaucoup de choses et qui ont abandonné notre Seigneur comme Judas l'a fait. Julien l'Apostat, par exemple, l'empereur romain, c'est un exemple. Julien l'Apostat, on l'appelle Julien l'Apostat parce qu'il était un catholique dans sa jeunesse. Il avait été baptisé, il avait pratiqué la foi catholique, mais vraisemblablement, il est tombé dans l'orgueil, il est devenu un apostat persécuteur des chrétiens alors qu'il était baptisé lui-même. Donc que celui dont la conversion est au ciel ne se croit pas en fausse sécurité, et que celui qui aime le monde ne désespère pas de son salut. Donc attention donc à cette nécessité de l'humilité. Réjouissons-nous non pas que les démons nous soient soumis, comme les 72 disciples qui disaient au Seigneur, les démons même nous sont soumis à votre nom. Réjouissons-nous d'être inscrits dans le livre de vie, de vivre en état de grâce et de pouvoir mourir en état de grâce. Chapitre 10 de Saint-Luc, verset 19. Voici que je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds les serpents et les scorpions, et toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Donc les serpents, page 37, représentent les hommes qui sont en guerre ouverte. Et les scorpions sont ceux qui travaillent dans le secret. Pourquoi ? Parce que le scorpion pique par la queue. Et donc le serpent est le symbole de l'hypocrisie. C'est pour ça qu'on dit que le serpent se cache dans son trou, on a l'impression qu'il est pas très gros, pas très grand, pas très long, et en fait on voit que la tête, mais derrière il y a un long corps qui peut être replié pour tromper les gens sur la grandeur réelle, et donc la dangerosité réelle de ce serpent. Versets 20 et 21 du chapitre 10 de Saint-Luc. « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » En cette heure même, il tressaillit de joie dans l'Esprit Saint et dit « Je vous rends gloire, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que vous avez caché ces choses aux sages et aux prudents et de ce que vous les avez révélées aux petits. Oui, Père, car il vous a plu ainsi. » Oui, après avoir parlé du danger de l'orgueil, ici notre Seigneur va parler des mérites donnés par la vertu d'humilité. Donc le pouvoir sur les démons est une grâce donnée à l'Église et parfois accordée à ceux qui n'en sont pas dignes. C'est le cas de Judas, je voulais citer. Donc c'est pas parce que quelqu'un fait des miracles qu'il est saint, qu'il est canonisable. C'est pour ça, il faut faire très attention, surtout avec les apparitions non reconnues par l'Église. J'ai eu beaucoup de cas comme ça d'apparitions qui étaient fausses, avec des espèces de miracles, de prodiges extraordinaires qui pouvaient tromper, même certainement dans certains cas, les élus. Dieu nous a mis en garde d'ailleurs contre ça dans l'Évangile. Eh bien, parfois, des fausses apparitions peuvent faire des choses extraordinaires. Il y avait, quand j'étais à Richfield, près de New York, à Long Island, dans, à côté de la ville, dans une partie de la ville de New York, en fait, il y avait une dame qui s'appelait Veronica Loiken, à Bayside, qui faisait comme ça des tas de prophéties, qui prétendait avoir des apparitions de la Très Sainte Vierge Marie à longueur de journée, et qui annonçait des tas de choses, faisait presque des espèces de signes bizarres, presque des miracles, et c'était pas de Dieu, puisqu'elle disait, elle disait aux gens, la nouvelle messe c'est du poison, mais restez dans vos paroisses pour donner le bon exemple. Vous voyez, parler d'un conseil. Donc la nouvelle messe c'est un poison, mais restez dans vos paroisses pour être sûr de boire et de consommer le poison le plus vite possible. On avait beaucoup de fidèles qui allaient chez elle, qui ont trompé. Elle a trompé beaucoup de nos fidèles, même des braves gens qui ont été trompés par elle. Et certains même allaient à la nouvelle messe pour suivre les conseils de Veronica Loiken, et puis le soir venaient chez nous pour avoir aussi la messe traditionnelle, parce qu'ils n'étaient pas contents du tout de la nouvelle messe à laquelle ils venaient d'assister le matin. Vous voyez ? Mais la prédestination favorise l'homme devant Dieu et se termine dans le bonheur éternel. Le salut final est conditionné par la persévérance et la foi. Le nom de tous les croyants est marqué dans le livre des prédestinés de Dieu. Ce qui fait la sainteté, encore une fois, ce ne sont pas les miracles. C'est la pratique extraordinaire la pratique extraordinaire des vertus. Voilà, c'est ça. Pratique parfaite des vertus. Certes, une fois que la personne est décédée, un cas de canonisation, parce qu'une personne est décédée, l'Église demande à ce moment-là l'intercession, par l'intercession de cette personne, qui est peut-être canonisable, que des miracles soient manifestés après la mort de la personne, pour manifester sa sainteté. Il y a des miracles qui sont exigés pour une béatification et surtout pour une canonisation. Mais ce ne sont pas les miracles faits pendant la vie de la personne qui rendent la personne sainte. Encore une fois, Judas a fait des miracles. Donc le salut est conditionné par la persévérance dans la foi et la foi mène à la charité. Donc au soir de notre vie, on ne sera pas jugé sur le nombre de miracles réels ou supposés qu'on a fait, mais sur la quantité, le degré de charité que nous avons. Et une personne qui a un haut degré de charité sera au ciel bien plus sainte qu'une personne qui a fait peut-être beaucoup de miracles extraordinaires, mais qui avait un degré de charité beaucoup, beaucoup moins fort. Donc attention au démon de l'orgueil qui peut faire énormément de mal. Alors, encore quelques minutes. Donc, continuons les considérations des Pères de l'Église, à page 37. La joie humaine conduit à l'orgueil et à la vaine gloire, mais celle produite par les bonnes œuvres entraîne un désir de plaire à Dieu. Donc la joie humaine conduit à l'orgueil, alors que les bonnes œuvres conduisent à l'humilité et au désir de plaire à notre Seigneur Jésus-Christ. On plaît beaucoup plus à notre Seigneur Jésus-Christ en pratiquant l'humilité qu'en faisant des miracles. Parce que les miracles, encore une fois, ne sont pas une preuve de sainteté en soi. D'être une petite violette à sa place plaît beaucoup plus au bon Dieu que d'être une grande rose extraordinaire de beauté, de parfum, dans un endroit qui n'est pas voulu par le bon Dieu. L'important, c'est d'être là où le bon Dieu le veut. Et si le bon Dieu veut que vous soyez une petite violette cachée sous la mousse, eh bien sanctifiez-vous. Comme ça, c'est comme ça vous irez au ciel. Il ne faut pas que la violette soit jalouse de la rose qui est au centre du jardin et que tout le monde admire. Personne ne vient voir la violette, on la sent sans la voir parce qu'elle est cachée sous la mousse. Mais c'est comme ça qu'on sanctifie. Les esprits célestes, disent les pères, ne sont pas saints par nature. Mais la mesure de leur sainteté est proportionnée à la mesure de leur amour pour Dieu. C'est ce que je viens d'expliquer. La sainteté réelle dépend du degré de charité. Si j'ai un haut degré de charité, j'aurai une sainteté réelle, forte, élevée. Par contre, s'il me manque la charité, s'il n'est pas la charité, je suis comme une cymbale qui retentit. Rappelez-vous le texte magnifique de saint Paul, l'hymne à la charité, 1 Corinthiens, chapitre 13. Si je n'ai pas la charité, je suis comme une cymbale. Même si je donne mon corps pour être brûlé, si je nourris tous les pauvres de la planète, si je n'ai pas la vertu de charité, c'est-à-dire si je n'ai pas l'état de grâce, je ne suis rien. Donc on peut faire des choses extraordinaires, des miracles extraordinaires. Si je n'ai pas l'état de grâce, je ne suis rien. Et ces miracles sont pour moi des faux miracles. Donc attention de ne pas nous faire rouler par le démon. Voilà, donc on va arrêter là. J'essaie de ne pas vous garder encore une fois plus qu'une heure. Donc nous allons terminer par une prière.
Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.